Nous allons donc maintenant ouvrir la séance et je vais procéder à l'appel. Enzi Jean,
présent.
Arnaud Michel, présent. Arnaud Odile,
présente.
Baroin Dolorès,
présente.
Biaise Michel,
présent.
Baumler Laurent, absent. Pouvoir à Patrick Stephen. Brouillard René.
Présent.
Carpentier Annie.
Présent.
Kérol Evelyne.
Présente.
Clos Marie.
Présent.
Coulet Dominique.
Présent.
Cournil Jean-Jacques.
Présent.
Dumont Laurence. Absente. Pouvoir à Odile Arnoux. Fagot Edwige.
Présent.
Floury Patrick. Absent. Pouvoir à Christophe Lamy. Fourdrin Stéphanie.
Oui.
Galzinski Nicolas. Absent. Grosbon Lisiane. Absent. Pouvoir à Dominique Coulet. Lamy Christophe.
Oui.
Lemercier Jean-Claude. Absent. Merlin Marie-France.
Présente.
Présente. Panier Francis.
Présent.
Présent. Rabé Philippe.
Présent.
Raguido Cécile.
Présente.
Raoui Ferrugia, absente. Sauvage Patrick, absent. Stéphane Patrick,
présent.
Présent. Il y a donc 19 présents. Le quorum est donc atteint et la séance sera valide. Il y a donc 4 pouvoirs. Baumler Laurent à Patrick Stephen, Dumont Laurence à Odile Arnoux, Floury Patrick à Christophe Lamy, Grosbon Lisiane à Dominique Coulet. Bien, secrétaire de séance, Evelyne Kerol se propose comme secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Evelyne Kerol, secrétaire de séance. À l'unanimité. Bien, lecture de l'ordre du jour. Donc, nous avons d'abord, après l'élection du secrétaire de séance, nous aurons l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 20 septembre 2017. Les décisions du maire 5 et 6 2017, les décisions sur le droit de préemption urbain. Ensuite, nous aborderons les tarifs de location de l'espace d'Agobert, les emplois aidés, une subvention supplémentaire à la MJC pour l'exercice 2017, une décision modificative numéro 3 au budget. Nous reparlerons d'acquisition de terrain. Ensuite, nous aurons la révision des statuts de l'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Automne, le transfert de propriété de l'impasse Saint-Nicolas, une modification du tableau des effectifs, l'avis sur le plan local d'urbanisme de Saint-Va-de-Laumont et les questions diverses. Bien, donc, approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 20 septembre. Y a-t-il des commentaires? Y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Décision du maire 5 et 6. Alors, décision numéro 5-2017. Monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux délégations accordées au maire, vu le marché à bon de commande conclu par la centrale d'achat de l'Oise Capoise 1 rue Cambry 60 024 Beauvais, pour les travaux de requalification des bordures et trottoirs rue Juliette-Adam, de création d'un arrêt de bus face à l'église et de requalification de trottoirs rue Gustave-Bouffé. Décide de signer le marché de travaux avec la société Ramery, parc des Cailloux de Sailleville, Laigneville, titulaire du marché pour un montant de 198 578,23 € hors taxes, 238 293,88 € toutes taxes compris, prix révisable selon la formule des marchés. Voilà, ça c'est donc la réfection des trottoirs de la rue Juliette-Adam qui va démarrer le... Alors il y a trois points en fait, hein. Il y a un travail de requalification devant l'école du centre. On va en fait, il y a une partie Airbus qui est en triangle, qui est toujours abîmée, sur laquelle finalement il n'y a jamais d'herbe. Donc on va y mettre de l'enroué à cet endroit-là, et puis on va mettre en place des barrières pour mieux assurer la sécurité des enfants. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est naturellement la requalification des bordures et trottoirs de la rue Juliette-Adam, donc qui va commencer, elle, le 6 novembre. Donc pour l'école du centre, ça va avoir lieu à partir du 30 octobre, c'est-à-dire pendant les vacances. Voilà, ce qui semble de bon aloi. Et pour la création d'un arrêt de bus face à l'église, parce qu'aujourd'hui, l'arrêt de bus qui existe ne répond plus du tout aux normes. Il manque de longueur. Il y a toutes les nouvelles normes pour qu'un bus s'arrête. Et donc, ça aura lieu début janvier 2018. Voilà, les travaux de trottoir rue Juliette-Adam sont prévus durer 7 semaines, sachant que c'est découpé en 7 phases. Et que la circulation n'est pas interrompue puisque un alternat sera mis en place. Pour mener ces travaux, je veux simplement vous rappeler qu'on bénéficie d'une subvention du conseil départemental de, 64 000, il me semble, c'est ça, à quelques euros près, hein. 64 000 euros qui a été voté d'ailleurs le 9 octobre, hein, raison pour laquelle on pouvait guère commencer ces travaux-là avant. Fallait avoir la subvention du conseil départemental. Tout ça s'inscrit dans le cadre des travaux qui sont menés rue Juliette-Adam et rue de Paris, puisque là nous allons arriver à la fin des travaux concernant tous les réseaux. Aujourd'hui d'ailleurs, le nouveau réseau d'eau a été... Il y a eu basculement de l'ancien réseau d'eau sur le nouveau réseau, et la semaine prochaine ils vont commencer à remettre de l'enrobé aux emplacements qui ont été ouverts rue de Paris. Derrière ça, donc, il va y avoir effectivement les trottoirs. Après les trottoirs, et là, il va falloir attendre un peu de temps, mais en printemps 2018, je n'ai pas la date exacte, le conseil départemental va refaire toute la bande de roulement. Il a déjà refait la bande de roulement de la départementale 932A depuis l'entrée de la ville jusqu'au carrefour avec la rue de Saint-Ine. Et il l'a refait aussi après la sortie de la ville, dans la côte ou après la côte, enfin dans la côte, jusque après ça va vers Senlis. Donc là, il va refaire la partie qui va de la rue de Saint-Ine, toute la traversée de la ville. Voilà, ce qui permettra d'avoir terminé cette affaire complètement. Voilà, ça c'est en avril 2018 et ça devrait prendre quelques jours. Voilà pour cette partie. Questions, commentaires? Très bien. Décision numéro 6-2017. Donc, Monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 25 avril 2014, relative aux délégations accordées au maire, décide de signer ce jour l'avenant numéro 1, lot 1 VRD, relatif au marché de travaux de rénovation de l'école matérielle des remparts avec la société Eurovia Picardie, agence de Compiègne, boulevard Henri Barbus, Tourotte, pour un montant de 1 600 € hors taxes, 1 920 € TTC, passé selon la procédure adaptée. Alors en fait, comme je pense un bon nombre d'entre nous l'ont vu, Toute la cour de l'école maternelle a été refaite. Donc, ceci dit, pendant les travaux qui ont été conduits, on a identifié, en raison des faibles pentes, etc., qu'il fallait déplacer. C'est une grille, en fait, pour les eaux pluviales. Donc ça, ce n'était pas prévu dans le marché initial, d'où cet avenant, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas laisser la grille au même endroit, sinon on allait avoir un problème d'écoulement des eaux pluviales. Voilà, question sur ce sujet-là, commentaire.
L'écoulement des eaux pluviales, c'est dans la cour de la récré,
oui.
Maternelle.
Oui, ça part dessous après. On avait eu d'ailleurs quelques soucis en juin 2016, au moment où il y a eu le très gros orage. Je ne sais pas si tu te souviens.
Il y a une chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que dans la rue des Remparts, il n'y a aucune bouche d'égout pour les eaux pluviales en cas d'inondation.
Oui, dont acte.
Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mettre une bouche d'égout? Parce que si un jour on vient avoir des pluies torrentielles dans la rue, l'eau, elle s'en va soit sur la place du marché ou dans par la rue, elle, donc il n'y a rien du tout pour...
Alors aujourd'hui, c'est, enfin, je ne peux pas répondre comme ça. C'est évidemment, il faut regarder sur le plan technique. Est-ce que déjà, rue des Remparts, moi, je n'ai pas identifié, mais je n'ai pas tout vu non plus. Donc, est-ce que rue des Remparts, avec les orages violents qui sont tombés, comme celui de juin, alors j'ai bien vu qu'on avait, eu des problèmes à l'école maternelle, on vient d'en parler, mais est-ce que vous avez eu des problèmes rue des Remparts?
Bah, c'est-à-dire les problèmes, ils se sont payés tout seuls. Enfin, l'eau s'est évacuée toute seule, puisqu'elle a passé par-dessus le petit trottoir qui donne sur le parking du marché, et puis qui a pris après
la qui a descendu.
Et ça s'est écoulé comme ça.
D'accord.
Et c'est dommage parce qu'on a refait la route et les trottoirs dans cette rue-là, il n'y a aucune bouche d'égout, sachant qu'il y a...
Je sais pas, on les a refaits en quelle année, ça? Enfin, on les a. Ils ont été refaits en quelle année?
Une dizaine d'années. Hein.
Ah oui, c'est pas nous qui faisons ça, c'est sûr.
Une bonne dizaine d'années.
Une bonne dizaine d'années.
Mais il y aurait un réseau pour accueillir les eaux pluviales.
Oui,
c'est le réseau qui passe.
Donc le réseau passe, mais il n'y a pas de bouche pour aller dans le réseau. Pourquoi ça n'a pas été fait à l'époque?
Je ne sais pas, parce que vu les événements maintenant, les orages torrentiels qu'on a, il se peut que
il faut regarder. Simplement, je demandais quand la rue avait été refaite, parce qu'il est évident que sur une rue qu'on vient de refaire, enfin, on attend un peu. Quoi, hein.
Non, mais je comprends bien. Non, mais voilà. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un jour avec des amis. La route avait été refaite.
Parce qu'à ma connaissance, je parle de mémoire, mais à cet endroit, il y a un réseau séparatif. Donc qui traverse d'ailleurs, puisqu'il y a le Dallot après, qui traverse le parc du château.
Parce que le réseau pluvial qui vient des sources de la rue d'Aucourt, ce réseau-là, il a été canalisé dans les années 1900. Donc il y a tout le réseau pluvial qui va se jeter à l'oise.
D'accord.
Donc il y aurait sûrement possibilité de faire un piquage dessus.
À voir. Étudier. Voilà, on ne peut pas répondre comme ça.
Hein. Non, bien sûr, mais enfin, c'est bon de le signaler parce que...
Tu me laisses un petit mot, tu m'écris un petit mot là-dessus, pour mémoire, hein. Ouais, j'ai un truc, on s'en souvienne, quoi. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette affaire de la cour l'école maternelle? Non? Bon, elle est belle? Oui. D'ailleurs, il y avait. Oui. D'ailleurs, pour mémoire aussi, on a donc. Là, il y a ces travaux-là. Ces travaux-là sont uniquement une partie des travaux de l'école maternelle. Hein. Il y a également toute la menuiserie qui va être faite et les fenêtres. Une partie des fenêtres viennent d'arriver aujourd'hui, donc qui vont être posées. Ceci dit, il faudra attendre l'été 2018 pour tout faire, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait de l'amiante. Donc il y a un problème de désamiantage qui forcément va demander plus de moyens, plus de temps. Ceci dit, il y a certaines fenêtres qui peuvent déjà être faites maintenant, qui vont être faites maintenant. Et puis, il y a une partie du toit aussi qui va être faite. Et la partie du toit qui va être faite, ça va être fait pendant ces vacances-là aussi. Donc le toit va être fait, une partie des fenêtres. D'ailleurs, la société travaille le samedi pour terminer pendant les vacances, et ils termineront à l'été 2018.
Voilà. Les arbres vont être replantés.
Et oui, et on va replanter des arbres puisqu'on a coupé les arbres qui étaient en place sur la cour de l'école maternelle, tout simplement pour ne pas avoir les problèmes de racines qu'on connaissait bien. Mais on va en replanter d'autres qui ne poseront pas les mêmes problèmes. Qui ne poseront pas de problème. Ok, sur ce sujet, simplement là aussi pour mémoire, c'est bon de le dire, on a une subvention du conseil départemental qui de mémoire est de 82 000 euros sur l'école maternelle. Je parle de mémoire là, donc je me... voyez, bon. Enfin, on a une subvention du conseil départemental et une subvention de l'État au travers de la DETR. On a deux subventions sur cette affaire-là. Voilà. Décision droit de préemption urbain. Donc, on n'a pas exercé de droit de préemption urbain. À partir du 63. Ok. Donc, droit de les demandes qui ont été faites. Monsieur, Madame Gauguillon, Éric, 3 rue Saint-Nicolas. La SCI Chemin de Saint-Sauveur, 4 route de Saint-Sauveur. Monsieur Bartineau, 17 impasse Notre-Dame-des-Monts. Les consorts Dénin, 29 rue du Port. ISM Participation, 44 rue Juliette-Adam. Monsieur Mora et Madame Litchi, 11 rue Marguerite-Yourcenar. La SCI Adrien, les remises d'Erneuse. Monsieur et Madame Vasseur, Vincent, 12 rue Jean d'Ours, et Monsieur et Madame Delfaux Robert, 6 rue du Parc. Voilà ce qui ont été fait comme demande de droit de préemption urbain. On en est à 73 pour l'année, je crois. Donc on va en avoir pas mal dans l'année. Bien, première question donc qui est abordée. Le tarif de location de l'espace d'Agobert. Donc, je vais céder la parole à monsieur l'adjoint aux finances. Je rappelle simplement que suite à la fusion de la communauté de communes de la Basse-Automne et de l'agglomération de la région de Compiègne, qui donne naissance à l'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Automne, nous allons récupérer à partir du 1er janvier 2018 l'espace d'Agobert au niveau communal. Il fallait donc définir des tarifs et d'ailleurs la commission des finances s'est réunie et maintenant je laisse la parole à monsieur l'adjoint aux finances.
Merci. Donc il a été remis sur table, comme on s'est réunis lundi, on a remis sur table les tarifs proposés pour la salle d'Agobert à compter du 1er janvier 2018. Donc en fait il est proposé trois tarifs. Un tarif pour Verberie, un tarif pour les villes de l'Arc Basse-Automne et un tarif pour les extérieurs à Verberie et l'Arc Basse-Automne. Donc pour ce qui est des écoles maternelles, écoles primaires, collèges, en fonction des disponibilités et de l'accord de la mairie, il y a une gratuité, mais il y a, s'ils en ont besoin, le coût de la mise à disposition d'un régisseur qui est une externalisation et qui est facturée par le régisseur. Hein. Ça ne dépend pas de la mairie. Donc avec une utilisation. Pour ce qui est des régisseurs, ce sont les régisseurs actuels qui étaient auparavant par la Basse-Automne et par l'Arc. Il y en a deux sur Verberie, deux voire trois qui peuvent être accrédités. Pour les clubs sportifs, idem, hein, gratuité en fonction des disponibilités de l'accord de la mairie. Donc la même chose pour le régisseur. Il n'y a pas de caution demandée, hein, pour les deux premiers. Pour les associations, alors il y a deux tarifs. Hein. Il y a un tarif si besoin avec fauteuil ou sans fauteuil. Week-end et jours fériés, donc gratuit le premier jour pour les associations. Donc tarif gratuit, mise à disposition du régisseur, c'est identique, hein, 175 euros pour la demi-journée, 350 pour la journée. Il est demandé une caution de 1000 euros. À partir du deuxième jour, il y a une facturation à hauteur de 400 euros. Pour le reste, c'est la même chose. Association avec fauteuil. Donc, premier jour, 800 euros. Coût de mise à disposition régisseur identique, caution la même chose. Et à partir du deuxième jour, 1200 euros. Entreprise par jour, 1200 euros. 175 euros pour le régisseur, 350 et 2000 euros de caution sollicitée. Pour les villes de l'ARBA, donc administration, association, club sportif et entreprise. Donc il est demandé 1500 euros en tarification à partir du premier jour et une caution de 2000 euros pour les associations, clubs sportifs et entreprises. Il n'y en a pas pour les administrations parce qu'elles ne peuvent pas fournir de chèques. Les extérieurs à Verberie et à l'Arc-Basse-Automne, donc tarification 2000 euros par jour, 175 euros le régisseur, 350 pour la journée et 2000 euros pour la caution. Forfait ménage, 150 euros. Voilà, à noter que la mise en place et le retrait des tapis fauteuils a réalisé aux frais du locataire par le sous-traitant accrédité par la mairie.
Les associations peuvent le mettre en place
s'il y a des bénévoles. Ils peuvent mettre en place éventuellement les tapis, mais pas les fauteuils. Voilà, à noter si vous voulez qu'on a gardé les mêmes tarifications que les tarifications qui étaient proposées par l'ARC, si ce n'est qu'on a augmenté de 1500 à 2000 pour les extérieurs en fait.
Voilà. Et puis la caution.
Et la caution, on a augmenté très fortement la caution par rapport à ce qui s'est passé il y a peu de temps au château, où il y a eu des dégradations et avec une faible caution. Voilà. Donc, ceci a recueilli, bien sûr, l'accord de la commission finances.
Bien. Questions, commentaires, propositions ? Pas de questions particulières. Bon, écoutez, la commission des finances s'est réunie lundi, donc ça a été un travail collectif. Voilà.
J'ai quand même une petite. J'ai regardé les plannings 2014, 2015, 2016, 2017.
Oui.
En fait, c'est très peu loué. Très, très peu loué. Ouais. Donc, il faudra voir peut-être, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de publicité, ou il faudra voir. En fait, en dehors des associations du collège et de la MJC qui utilisent la salle. La salle, mais en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de. Il y a très peu de spectacles, il y a deux ou trois, c'est tout.
Bon, il est bien évident qu'on peut toujours avoir des demandes de prestations hors de ce cadre-là et qui feront l'objet d'un prêt gratuit, mais dans ce cas-là, évidemment, ça passera en conseil municipal comme on le fait pour. Ce sont des circonstances exceptionnelles. Donc on demandera l'accord du conseil municipal. Pas d'autres questions ? Bon, bah écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Bien, sujet suivant. Emploi aidé. Donc, subvention supplémentaire à la MJC de l'exercice 2017. Alors, en fait... la MJC nous a envoyé un certain nombre de tableaux. Bon, il en ressort un surcoût dû à la réduction des emplois aidés sur la seule période de septembre 2017 au 31 décembre 2017, un surcoût qui est de l'ordre de 10 000 euros. Ce surcoût de 10 000 euros, évidemment, la MJC ne l'avait pas mis dans son budget prévisionnel, puisque ça fait partie des choses qu'on ne peut pas prévoir, pour le coup. Ceci dit, sur ces 10 000 euros, il y a en fait trois fonctions oui, fonctions qui sont remplies par la MJC. D'une part, il y a les nouvelles activités périscolaires, donc avec des animateurs de la MJC. Il y a l'accompagnement des enfants de maternelle au centre de restauration scolaire. Et il y a le périscolaire. Les deux premiers, alors c'est là où on est remonté vers la MJC qui nous demandait quand même au départ une subvention de 9 600 euros. On est remonté vers elle parce que, tout simplement, pour les NAP et pour le centre de restauration scolaire, ça fait l'objet, entre parenthèses, d'une facturation particulière. Donc le surcoût sera inclus dans ces facturations. Donc on ne va pas les compter deux fois. Donc on a demandé à la MJC de faire ce travail-là et il reste pour les périscolaires un surcoût estimé à 3 082,84 €. De ce fait, on vous propose de verser une subvention supplémentaire de 3 085 € à l'association Maison des Jeunes et la Culture de Verberie. Voilà, les chiffres, ce sont eux qui nous les ont donnés. On les a regardés, mais ce sont eux qui nous les ont donnés. Voilà, y a-t-il des questions, des commentaires? J'imagine que oui. Non?
Ben, on a quand même, enfin si, moi j'en ai. On a quand même à se poser la question pour l'an prochain, parce que à ce rythme-là, jusqu'où on va aller, quoi. Alors certes, on l'a déjà précisé, le périscolaire, c'est quelque chose d'impératif dans une commune comme Verberie. Le budget communal n'est pas extensible. Au contraire, aujourd'hui, il a tendance à se réduire. Donc, il va falloir faire des choix. Voilà.
Des manières, de toute façon.
On attend de la MJC des propositions. Et là, il faudra que le prochain conseil d'administration de la MJC... auquel on est présent d'ailleurs, fasse des propositions et qu'on voit ce qu'on peut faire. Ça risque quand même de chiffrer sur une année complète. Il faut le savoir. Il faut qu'on prévoie quand même notre budget pour 2018. Quoi. Donc on a besoin d'éléments de travail pour pouvoir le prévoir.
Le coût global, la subvention globale donnée à la MJC.
La subvention globale qu'on a donnée cette année, c'est 100 000 € au titre, c'est 80 000 € au titre de la subvention, auxquels viennent s'ajouter de tête 9 000 € pour les NAP, auxquels on a rajouté 10 000 € en subvention exceptionnelle, 3 000 € que l'on refait là, et 70 000 € au titre du salaire du directeur.
Un petit peu moins de 40, parce qu'on a un reversement.
Un retour,
plutôt 40 000, mais on verse plus de 150 000 euros par an à la MJC. Derrière ça, se pose la question de l'après. Bon, dans l'après, on regarde de près comment. Vous savez que se pose le problème du 4 jours et du 4 jours et demi. On en parlait d'ailleurs en conseil d'école avant le conseil municipal. Dans les retours que l'on a pour l'instant, les parents sont favorables en majorité à passer à 4 jours. Les conseils d'école aussi, pour les deux conseils d'école qu'on a vus, sont aussi favorables à passer à 4 jours. Donc c'est probablement une démarche que l'on va entamer. Sachant que les NAP, il y aura les nouvelles activités périscolaires en moins, il y aura du périscolaire en plus, puisque mais c'est pas les mêmes modes de financement, ça pourrait peut-être atténuer un peu le surcoût. De toute façon, cet passage à 4 jours, si on le fait. Ce qui semble aujourd'hui assez probable, vu les retours. Il semble quand même difficile de le mettre en œuvre en cours d'année. On a demandé à l'inspecteur, il nous a dit que c'était compliqué pour lui sur le plan scolaire. Et nous, on a aussi qui n'est pas insurmontable, mais qui est un peu compliqué aussi. C'est le centre de restauration scolaire, qui aujourd'hui est calé sur 4 jours et demi. Et le centre de restauration scolaire, de toute façon, termine son contrat en juin. On va donc relancer un nouveau cahier des charges, etc., pour septembre 2018. Donc là, si la décision est prise de passer à 4 jours, on intégrera évidemment cette caractéristique dans le nouveau marché. Voilà, ceci dit, je vous propose de revenir à moi qui ai question, commentaire, de revenir à notre subvention supplémentaire à la MJC de 3085 euros. Oui. Vous avez un commentaire? Très bien. Donc je vous propose de passer au vote, s'il n'y a pas d'autre chose. Très bien. Bon, bah, passons au vote. Donc, Monsieur le Président de séance propose à l'Assemblée d'accorder une subvention supplémentaire de 3 085 euros à l'association Médanjeton des Jeunes et de la Culture de Verberie pour l'exercice 2017, de prélever le montant de la dépense sur un crédit suffisant qui sera inscrit à l'article 6574 du budget de l'exercice en cours. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Point numéro 3, décision modificative numéro 3 au budget. Ben, c'est la suite très claire de la décision qu'on vient de prendre. Il faut placer sur le bon compte de l'argent qui va nous permettre de payer cette subvention. Et il n'y a pas que ça, me dit l'adjoint aux finances, donc je lui cède la parole.
Donc on avait voté la clôture du budget de l'association foncière, la fermeture du compte de l'association foncière qui existait, ce qui implique des modifications dans les comptes. Donc en section d'investissement dépenses, il y avait moins 1373,55 euros et en fonctionnement il y avait plus 1427,21. Donc le différentiel fait que c'est reporté, mais comme on avait voté les comptes définitifs du budget, on est amené à devoir les modifier. Donc on portera les résultats cumulés du budget général au montant suivant. En section d'investissement en dépenses sur le compte 01, déficit d'investissement reporté, moins 213 617,52. Et en section de fonctionnement recettes, compte 02, en résultat reporté, plus 1 200 968,41. La première opération fait changer la deuxième. Voilà. C'est simplement une articulation administrative. Et donc, suite à l'accord du budget de la subvention de la Maison des Jeunes, la section de fonctionnement en dépenses, donc on a retiré du compte 615-221 entretien des bâtiments publics, on a retiré 3085 euros. On les a portés sur le compte subvention 65-74 plus 1300. Plus 3085 euros. Voilà.
Questions, commentaires? Bon, très bien. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Chapitre suivant, acquisition de terrain. Donc, on a déjà en partie traité de cette affaire-là. Je vous rappelle que par la délibération en date du 30 juin 2017, le Conseil municipal a décidé l'acquisition des parcelles cadastrées AN. Voilà, c'est projeté là. Donc, on a décidé l'acquisition des parcelles cadastrées AN1, AN24, AN25 et section AO numéro 43 pour partie au lieu dit La Corroie à SNCF Réseau. Donc très clairement, c'est la partie qui est projetée en vert, là, sur ce que vous voyez. Après discussion avec SNCF Réseau, il nous propose d'intégrer à l'acte d'acquisition les parcelles cadastrées AN numéro 13, 14, 22 et 23 que vous voyez là en rouge. Hein, elles sont encadrées en rouge. Donc en fait, c'est une partie du chemin des... Attendez, je vais le mettre en dessous, ça, on verra mieux. Voilà. C'est une partie de la rue des Troènes. Je ne sais pas si vous voyez bien là. C'est cette partie-là. En fait, cette partie-là, c'était chez nous, c'était de l'espace public. Oui, de l'espace public. Hein.
Oui, une partie.
Oui. Et la partie à côté, bah, c'était la propriété de SNCF. Personne ne le savait, mais bon, c'était la propriété de SNCF. Et même chose de l'autre côté, sur l'autre chemin, il y a une petite bande. Tout ça fait, comme c'est marqué ici, 489. Non, c'est pas marqué ici. Ça fait 489 mètres carrés, je crois.
429.
Pardon, 429 mètres carrés. 429 mètres carrés. Bon, ils ne le font sans augmentation du coût prévu. C'est-à-dire que, voilà, on a adopté l'autre jour pour un prix donné les parcelles qui sont en vert sur le précédent. Sur le précédent schéma, et ils nous ont proposé d'intégrer en plus pour le même prix ces parcelles-là. Je pense qu'il vaut mieux clarifier les choses. Elles vont passer dans l'espace public, parce que ça deviendra à l'avenir, mais c'est plutôt des chemins pour circuler. Bon, les délimitations de parcelles ne sont pas très carrées à cet endroit-là, mais bon, pour l'instant, on ne va rien changer. On ne va pas. Voilà, on va rien changer, mais voilà, ça passe dans le domaine communal. Voilà, c'était une proposition de leur part et ça semblait quand même intéressant de le prendre puisque de toute façon c'est à coup.
Mais la rue des Marronniers, c'est pas un chemin rural, ça?
Je n'en sais rien. Voilà. Je ne peux pas te répondre en séance. Je suis désolé. Je ne peux pas te répondre en séance. Mais ceci dit, est-ce que ça change quelque chose à ce qu'on vient de dire?
Non.
Non.
Voilà. Le chemin rural, il appartient à la commune et puis voilà.
Oui, mais là, il y a une partie du chemin qui appartient à la commune, qui est à droite, et la partie qui est à gauche qui appartient à SNCF Réseau. Bon, c'est le fruit de l'histoire, je ne sais pas pourquoi.
Ah, parce que là, ce fameux chemin de toute part, là, qui traverse, dans le temps, qui continue.
Enfin, c'est passé des choses depuis.
Bah, c'est-à-dire qu'il y en a un qui l'a clôturé, le chemin, un peu plus proche. Donc ça veut dire que...
Et puis il y a la route qui a été construite.
Non, mais ça veut dire qu'à long terme, ce chemin-là, il ne sera plus un chemin rural. Il va devenir un chemin...
Je ne sais pas répondre à ta question. Est-ce un chemin rural ou pas? Donc je ne me lance pas dans cette affaire. Bon, c'est à regarder. Maintenant, moi qui ai une autre question, de revenir au sujet qui est le nôtre, là, de l'acquisition de ces parcelles de 429 mètres carrés, qui viennent se rajouter donc au... 13 600, si je me souviens bien, 601, comme si je vois, mètres carrés. Voilà.
1600. Ah, oui. Un mètre. Au centimètre carré.
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Tant qu'on y est sur les projections, je vous propose de voir le point 6 avant le point 5. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? C'est-à-dire de voir le transfert de propriété de l'impasse Saint-Nicolas avant la révision des statuts de l'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Automne. Est-ce que ça vous pose un problème? Je demande. Non? Tout le monde est d'accord? Parce qu'on sert du rétroprojecteur, il y a aussi une projection. Donc simplement pour mémoire, l'impasse Saint-Nicolas, que vous voyez ici en rouge, donc la parcelle 205. Je vais chercher le... Bien. Alors je rappelle, pour l'instant, cette parcelle est propriété d'un certain nombre de copropriétaires. C'est une situation aussi assez complexe, héritée du passé, parce qu'il y a des gens qui utilisent cette impasse, mais qui ne sont pas copropriétaires.
Et il n'y a pas de servitude. Enfin bon, voilà, c'est des fruits quelque part du passé. Je rappelle qu'il y avait eu une délibération du conseil municipal du 9 décembre 2013 par laquelle ce dernier émettait un accord de principe au transfert de propriété de la parcelle cadastrée, donc AD205, d'une superficie de 3 arts et 29 centiares au profit de la commune. Voilà, on en était là. Cette parcelle supporte l'impasse Saint-Nicolas. Bon, en ce qui concerne les réseaux, alors il y avait à l'époque un problème de réseau quand même, hein, il y avait des choses à faire. En ce qui concerne les réseaux, la commune ne peut reprendre que les réseaux pour lesquels elle possède la compétence, réseau électrique basse tension, téléphonique, éclairage public et eau pluviale le cas échéant. Les réseaux d'eau pluviale et d'eau usée sont repris par le CIVOB, eau et assainissement de Verberie. Saint-Vaast-de-Longmont, dont le comité syndical a délibéré favorablement le 12 décembre 2016 sur l'état des réseaux dans cette impasse, pour dire qu'ils étaient conformes. La totalité des réseaux étant aux normes et en bon état, le CIVOB de Verberie de Saint-Vaast-de-Longmont ayant décidé la reprise des réseaux dont il a la compétence, monsieur le président de séance propose à l'Assemblée d'accepter le transfert de propriété à la commune de la parcelle cadastrée section AD205 et de prendre en charge les frais notariés et annexes afférents à ce dossier. Bon, les frais ne vont pas s'élever à des sommes énormes. Pourquoi on veut avancer sur ce dossier? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est quand même que la commune, à un moment donné, a mis de l'enrobé sur cette impasse sans en être propriétaire. Donc là, d'ailleurs, on a déjà dû intervenir pour des problèmes suite à cette pose d'enrobé. Et on se retrouve clairement avec une surface dont on est responsable alors qu'on n'est pas propriétaire des lieux. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Voilà. Normalement, on reprend et on fait après. Donc déjà ça, c'est la première difficulté que l'on a. La deuxième difficulté qui m'amène aujourd'hui, c'est pas une difficulté d'ailleurs, qui m'amène à vous proposer aussi d'accélérer les choses sur cette reprise d'impasse, c'est qu'en refaisant la rue de Paris. Rue de Paris, au niveau du virage, il y a un départ d'eau pluviale dans un 600 mm. Voilà, on ne savait pas où aller sur réseau pluvial. Donc on s'est quand même posé la question. On a demandé à la Lyonnaise de regarder. Donc ce réseau pluvial, en fait, ce réseau pluvial, bah, il était bouché. Donc quand on connaît les problèmes que l'on a au bas de la rue de Paris en cas de gros orages, et notamment celui de juin 2016, vous avez vu qu'il y avait 50 cm d'eau, bénéficier d'une évacuation du pluvial supplémentaire, ça peut être qu'intéressant. Alors, typiquement, il a été bouché, il a été débouché, surtout on a reconstitué la totalité de l'itinéraire de ce pluvial. Donc, ce pluvial part effectivement de la rue Paris. Là, il y a une espèce d'impasse avec une porte, on y va, et puis on arrive devant des propriétés. Donc, il traverse les propriétés, il traverse le fond de l'impasse Saint-Nicolas. Il continue à traverser encore une propriété dessous, hein, il est busé, et il arrive sur la propriété de la enfin c'est même pas la propriété de la SHLM de l'Oise, c'est plutôt de la maison de retraite sur laquelle est implantée Résidoise. Et là, il est busé correctement avec des regards de point à point, et finalement, alors j'ai pas pris la carte, mais il aboutit impasse de la Bévelu, et là, il rejoint un lavoir qui est un peu plus loin. Donc, on a ce pluvial-là qui peut nous être bien utile. Aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est que justement, un tout petit peu après l'impasse Saint-Nicolas, typiquement, on a des tuyaux qui sont décalés. Donc, vous avez le premier tuyau circulaire qui arrive. Et le deuxième, il est comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'évidemment, vous comprenez qu'au niveau de l'évacuation et du flux, ça pose problème. On perd une quantité incroyable de capacité. Donc là, tout simplement, en mettant, l'idée, c'est qu'on va mettre un regard au fond de l'impasse Saint-Nicolas. Comme ça, déjà, on va pouvoir aller voir ce qui se passe avec des caméras, mais de très près. On va bien voir ce qui se passe. Et ensuite, si c'est bien, et a priori, ça doit être bien confirmé qu'il y a effectivement des tuyaux comme ça, qui sont décalés, on va mettre en place ce qu'on appelle une chambre, qui permettra effectivement, vous avez la chambre entre les deux et les tuyaux décalés, et comme ça, vous retrouvez la pleine capacité de votre écoulement pluvial. Voilà donc ce qui amène aujourd'hui à vous proposer, parce que je souhaite entreprendre ces travaux, enfin, je pense que c'est sain, sur un terrain que l'on possède. Voilà, sachant qu'il n'y a pas de... Enfin, oui, il y a des coûts notariés dont on a parlé tout à l'heure, mais il n'y a pas d'autres coûts. Voilà, c'est une rétrocession. Voilà. Questions sur ce sujet ? Bon, ça permettra d'améliorer la capacité d'évacuation des eaux pluviales de la rue de Paris, au bas de la rue de Paris, sachant qu'on a ajouté en plus deux avaloirs qui sont à peu près au niveau de l'ancienne gendarmerie, de part et d'autre, pour encore améliorer cette évacuation. Ceci dit, ça ne sert à rien d'ajouter plus d'avaloirs parce qu'on est sur un réseau unitaire et quand le réseau est plein, de toute façon, voilà, ça sera... on ne pourra pas en mettre plus. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que ça va être une amélioration notable. Est-ce que ça résoudra totalement le problème ? Eh bien, l'avenir nous le dira. Pas capable de le dire aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que ça ne peut aller que dans un sens positif. Avez-vous des questions sur ce sujet-là ? Non ? Commentaires. Bon, moi, je remercie les... Ils sont pas là, mais enfin, je remercie les gens de la Lyonnaise qui ont fait ce travail, parce que ça nous a permis d'y voir clair. Et ben, c'est quand même un drôle de cheminement, quoi. Et de retrouver tout ça, ben, ça va permettre d'améliorer la situation. Je vous propose de passer au vote. Je suis en train de chercher le papier. Où je l'ai mis. Merci madame.
À côté de l'ordinateur.
Ah oui, à côté de l'ordinateur, non.
Je sais pas. Oui, oui, Annie, tu passes ces papiers, s'il te plaît.
Là, voilà.
Oui. Bon. Donc, je vous propose d'accepter le transfert de propriété à la commune de la parcelle cadastrée section AD205. Et de prendre en charge les frais notariés et annexes afférents à ce dossier dans un endroit un peu complexe, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, puisque tous les riverains ne sont pas copropriétaires de ce lieu. C'est quand même assez. Voilà, c'est le fruit de l'histoire. Mais bon. Ça aura le mérite aussi de clarifier la situation. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Maintenant, nous revenons donc au dossier numéro 5, l'adoption des statuts de l'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Autonne. Ces statuts ont donc, essayez de retrouver la page, ont donc été adoptés par le Conseil d'agglomération le 28 septembre. Mais évidemment, après l'adoption par le Conseil d'agglomération, il faut que les communes qui appartiennent à cette agglomération, il faut que ça passe en conseil municipal. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, sachant, si je me souviens bien, c'est un vote qualifié. Je cherche les termes.
La majorité qualifiée.
Voilà, majorité qualifiée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit approuvé par au moins
les deux tiers des communes
représentant 50% de la population
et inversement,
et 50% des communes représentant deux tiers de la population.
Voilà, ou en fait 50% des communes représentant deux tiers de la population. Et il y a même un troisième alinéa, je crois, sur la majorité. Voilà, cette majorité devant en outre comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse. Bon, je vous dis ce qui est marqué. Voilà, donc, bon, je n'ai peut-être pas l'ambition de relire tous les statuts. Vous a été distribué donc à la fois les statuts, mais également un tableau qui montre qui montre le travail qui a été fait entre, d'une part, les statuts de l'agglomération de la région de Compiègne, les statuts de la Basse-Autonne et les rédactions finales des statuts de la nouvelle agglomération. Alors, juste peut-être quelques points. D'abord, le premier point, c'est que nous sommes 22 communes dans cette nouvelle agglomération, donc on commence par là. Le deuxième point, alors il y a quelques points sur la composition, le fonctionnement du conseil de la communauté. Bon, tout ça est très classique, très régi par le code général des collectivités territoriales, le bureau, il y a effectivement un bureau qui est notamment composé de l'ensemble des maires, le président, le receveur, et il y a l'article 8 où commencent les compétences de la communauté. Alors, dans les compétences de la communauté, vous voyez d'abord qu'il y a les compétences obligatoires. Donc ça, quelque part, ça ne se discute pas, c'est la loi. Dans ces compétences obligatoires, si vous vous souvenez de la loi NOTRe impose à l'agglomération de prendre deux nouvelles compétences qui n'étaient pas forcément les siennes avant. Voilà. Il y a à la fois la loi NOTRe qui impose ça, et il y a aussi la loi, alors je ne sais plus laquelle, mais celle qui institue la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et MAPTAM, oui. Et prévention des inondations. À titre d'exemple, dans les compétences obligatoires en matière de développement économique, vous voyez que vous avez la politique d'abord. Le développement économique est aujourd'hui une compétence obligatoire de l'agglomération, ce qui n'était pas le cas avant. La communauté de communes de la Basse-Autonne n'avait pas toute la compétence développement économique. Et derrière ça, vous avez par exemple la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. Ça, c'est quelque chose qui n'existait absolument pas avant. C'est quelque chose qui a été institué par la loi NOTRe et donc qui est imposé par la loi. Donc, vous devez obligatoirement l'avoir dans vos statuts. À la fin, et on le retrouve un peu partout, à divers endroits, on parle d'intérêt communautaire. Alors se pose la question de savoir ce qu'est l'intérêt communautaire. En fait, là, l'intérêt communautaire fait l'objet d'une délibération, ou du moins fera l'objet d'une délibération, qui sera prise courant 2018, puisque l'agglomération a jusqu'au 1er janvier 2019 pour la prendre. Hein. En attendant, la définition de l'intérêt communautaire qui se poursuit, c'est celui qui avait été adopté par l'ancienne agglomération. Voilà. Qu'est-ce que je peux évoquer là-dedans ? Bah après, bon, les compétences obligatoires, bah ça ne se discute pas. Dans les compétences obligatoires, quelques commentaires quand même, hein, faut lire les grandes lignes. Il y a donc des compétences obligatoires en matière de développement économique, des compétences en matière d'aménagement de l'espace communautaire, et notamment là on y retrouve tout ce qui est schéma de cohérence territoriale, schéma de secteur, plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale, création de zones d'aménagement concertées d'intérêt communautaire, etc. On a ensuite tout le volet qui est le volet qui concerne l'équilibre social et de l'habitat, avec notamment un programme local d'habitat qui, voilà, c'est la loi, c'est pas l'agglomération qui a choisi de le mettre dedans. C'est quelque chose qui est imposé par la loi. Il y a aussi la politique de la ville. Donc la politique de la ville qui fait, en fait, politique de la ville qui est définie par les orientations de ce qui s'appelle le contrat de ville. Mais là, on n'est pas vraiment concerné. Il n'y a que certains quartiers de Compiègne qui sont concernés par le contrat de ville, qui est un contrat entre l'agglomération et l'État. En matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, j'en ai parlé. Et celle-là, elle prendra effet à compter du 1er janvier 2018. Donc elle est imposée avec de nouvelles exigences de l'État.
De nouvelles taxes.
Alors, on en parlera tout à l'heure. Et une taxe GEMAPI. En matière de gens du voyage également, hein, c'est l'agglomération qui a cette compétence-là, sachant que bien sûr l'agglomération est soumise au schéma départemental qui est d'ailleurs en cours de modification. La collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. Et puis ensuite on arrive aux compétences optionnelles, où vous en avez trois. Création ou aménagement et entretien de voiries d'intérêt communautaire. Lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. Construction, aménagement, entretien, gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. Ça aussi, c'est dedans. Et puis, vous avez les compétences facultatives ensuite, donc qu'a pris l'agglomération. L'aménagement paysager, l'entretien des entrées d'agglomération sur les principaux axes structurants, les études, mise en œuvre et gestion des dispositifs de relais d'assistantes maternelles et équipements associés. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une compétence que n'avait pas l'agglomération avant, mais qu'avait la communauté de communes de la Basse-Automne. Donc c'est une compétence qu'elle reprend et qu'elle étend à l'ensemble de l'agglomération. Construction, exploitation des réseaux usés et stations d'épuration, mise en œuvre d'une politique d'assainissement individuel. Ça, c'est à partir du 1er janvier 2018 aussi, dont notre CIVOM, Verberie Saint-Vadelomont, va prendre une partie de ses compétences. Le service public des réseaux de communication électronique à haut et très haut débit. Donc là aussi, c'est une compétence que n'avait pas l'agglomération de la région de Compiègne. Et en fait, qu'avait la communauté de communes de la Basse-Automne. On s'est battu pour que l'agglomération de la région de Compiègne la prenne, parce qu'il y avait quand même des engagements financiers qui étaient lourds de ce point de vue-là pour nous, et au final, elle l'a pris. Il s'ensuit après les équipements culturels et sportifs et équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire, la réalisation d'équipements socio-éducatifs, sportifs, touristique, de loisirs, voilà, vous avez ensuite, il y a des halles de sport, il y a des choses comme ça, pour les communes de plus de 2000 habitants. Alors, il y a la participation au pôle d'équilibre territorial et rural. Alors là, en fait, il manquait un mot dans ce qui vous a été transmis, c'est participation au pôle d'équilibre territorial et rural. En fait, que ce soit la CCBA, l'ex-CCBA ou l'agglomération de la région de Compiègne, elles appartenaient tous deux à ce qui s'appelle l'association du pays compiénois. L'association du pays compiénois est en train de changer de structure juridique pour prendre une structure juridique de pôle d'équilibre territorial et rural. D'où cette compétence. Incendie également. Donc, dans incendie, il y a... notamment le versement de la contribution financière aux SDIS en lieu et place des communes membres. Voilà. La sécurité, avec notamment la mise en place d'un comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Voilà. Participation aux études et investissements en faveur de la sécurité des biens. Loisirs. Sport nautique et aéronautique, fait partie de ses compétences, notamment la gestion de l'aérodrome de Marny-les-Compiègnes. Réalisation et gestion d'un crématorium, qui se trouve d'ailleurs à Saint-Sauveur, ça aussi, ça en fait partie. Et ensuite, il y a la possibilité d'apporter des fonds de concours. Fonds de concours, ce sont des subventions, en fait, hein, qui peuvent se monter à 50%, si je ne me trompe, de la somme du projet. Là, vous en avez toute une liste, hein, je ne la reprends pas. de fonds de concours que vous pouvez obtenir. L'eau, alors l'eau, elle est reprise en termes de compétences au 1er janvier 2019. Donc là, le CIVOM va disparaître totalement. Voilà. Là, la gestion d'un centre de supervision intercommunale, ça c'est de la vidéoprotection, hein, il est à Marmier-les-Compiègne. Bon, la réalisation, l'aménagement, la gestion et l'entretien des pistes et voies cyclables reliant au moins deux communes entre elles. Donc ils ne prennent pas en compte les pistes cyclables à l'intérieur de la commune, de l'espace urbain. Ils prennent en compte que ce qui relie les communes. Donc nous, on est quand même, d'ailleurs, c'est pour ça que bon, c'était la communauté de communes, la Basse-Automne, qui avait initié l'affaire. Ils ont continué puisque le contrat avait été fait. Et ils ont donc refait la partie qui longe l'Oise, là, sur 2-3 kilomètres. Qui est d'ailleurs très, très bien, très agréable. Et donc ça, ça fait partie de cette compétence-là. Ils ont également la réalisation et la gestion de mesures compensatoires dans le cadre de la lutte contre les inondations, la réalisation des postes de crue, et au travers de la compétence GEMAPI, en fait, en raison du prévention des inondations, ils ont aussi la gestion d'un certain nombre de digues, dont notamment les deux digues de protection qui sont sur Verdorie. Donc maintenant, c'est eux qui vont s'en occuper, avec les pistes cyclables qui sont dessus. Bon. Voilà. Après, on passe évolution des compétences de la communauté. Bon, c'est le code général des collectivités territoriales qui est repris. Hein. Adhésion de la communauté à un autre établissement public de coopération intercommunale. Le budget, naturellement. Les ressources. Alors, il y a tout un tas de ressources. Donc fiscal, évidemment. L'adhésion de nouvelles communes et membres et retrait de communes. Bon, ça, c'est aussi pris en compte. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le vent de l'histoire, qui peut s'inverser, on ne sait jamais, mais le vent de l'histoire, c'est que les communautés de communes ou d'agglomérations vont encore grandir. Hein. C'est, du moins, aujourd'hui, c'est la volonté de l'État, et pas que d'aujourd'hui, en fait. Hein. C'est la volonté depuis longtemps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur... ces statuts.
Est-ce qu'on peut envisager éventuellement de parler du centre de vidéo de se relier à terme à celui-ci?
On peut, alors, oui, on peut envisager. D'ailleurs, on va aller, comme j'appartiens au CISPD, on va aller le visiter. C'est possible. Maintenant, derrière tout ça, vous pouvez... Mais il y a nécessairement, il y a une contribution. C'est pas, c'est l'ARC qui a, enfin l'ARC, l'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Automne qui a la compétence, mais ils demandent aux communes une contribution pour être reliées à ce centre, qui une contribution par habitant. Alors je n'ai pas en mémoire le niveau de contribution, je suis désolé, mais techniquement oui, il n'y a aucun problème. Après, il faudra voir si pour nous ça vaut le coup ou pas. Sachant que le département est en train de se lancer dans la même aventure, mais à l'échelon de l'Oise. Bon, tout ça est en train d'évoluer.
Parce que là, on est d'accord que c'est un centre où on a un opérateur.
Oui, un opérateur 24-24. Ouais. Ce qui veut dire, quand vous avez un opérateur 24-24, dans le droit français, pour avoir un poste 24-24, il vous faut 8 personnes. Bien se souvenir de ça.
La différence, c'est qu'on a aujourd'hui un système où en fait, qui sert une fois que l'arsin ou l'autre a été fait.
En majorité.
La vidéo est éventuellement l'utiliser, alors que là, on est sur un système où on a un opérateur, donc ce qui peut éventuellement changer la donne. Par contre, on ne peut pas avoir les yeux partout. Hein.
Alors, oui et non. Enfin, de toute façon, un dispositif de sécurité. C'est toujours la vidéoprotection, c'est pas l'arme miracle, c'est pas celle qui va régler tous les problèmes. C'est un élément à intégrer dans un dispositif de sécurité qui apporte une certaine efficacité dans des conditions données. Comme vient de le dire monsieur Lamy, avoir effectivement un opérateur derrière les caméras, c'est clairement une plus-value. Maintenant, si l'opérateur est derrière les caméras, mais qu'il n'y a pas la ressource nécessaire pour avoir une intervention rapide, vous comprenez qu'il y a un facteur limitant. Donc, vous aurez peut-être la ressource pour une intervention, deux interventions, mais pas trois, pas quatre. Donc, c'est un facteur qui est nécessairement limitant derrière. C'est d'ailleurs des problèmes auxquels se trouvent confrontées aujourd'hui les forces de police, puisque comme tout le monde sait qu'il y a de la vidéoprotection, là je ne parle pas de verberie, mais je parle de choses qui sont beaucoup plus grandes. En clair, on lance des actions leurre sur certains endroits pour mobiliser les forces de sécurité et on déclenche l'action principale à un autre endroit. Hein, c'est des, de toute façon, en termes militaires, c'est des, voilà, c'est des techniques bien connues. Hein. On appelle ça de la déception. Voilà, mais c'est pour montrer que c'était une plus-value. Ça permet de faire des choses. Sur verberie, c'est efficace. D'ailleurs, ça a été encore récemment et très récemment très efficace. Il y a un indice notamment qui nous permet de mesurer l'efficacité. C'est la baisse du coût des détériorations sur nos bâtiments communaux. Mais c'est aussi la participation à un véritable maillage. Et souvent, les gendarmes viennent effectivement, avec une réquisition, prendre des vidéos. Parce que la vidéo ne donne pas la réponse à la question. Elle donne, pas toujours, elle donne un élément qui va permettre de continuer l'enquête, de s'orienter vers d'autres personnes, et donc de continuer à tirer les chevaux pour arriver à la conclusion. C'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. Voilà, c'est encore une fois, c'est un élément parmi d'autres. Mais aujourd'hui, ça joue quand même un rôle très très important dans un milieu où les techniques évoluent de plus en plus vite, d'ailleurs, évoluent de très vite depuis longtemps. Voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire-là de vidéoprotection. Nous, on a mis en place un dispositif qui n'est pas si mal que ça, qui fonctionne bien et qui permet effectivement de connaître les flux et puis de protéger certains endroits. Voilà, on en revient au statut. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les statuts?
Pour la question de GEMAPI, vous avez dit vous en parlez après.
Ouais, je vais en parler après parce que après il y a des choses qui ont été votées en conseil d'agglomération. Et comme la taxe a été votée en conseil d'agglomération, je vais en parler à ce moment-là, à titre d'info, parce que de toute façon, ça a été voté. Voilà. Et ça ne fait pas partie des statuts, la taxe. Hein. C'est la compétence qui en fait partie. Alors la compétence GEMAPI, puisqu'on en parle là quand même. Nous, on avait des éléments de compétence, puisqu'on était dans le SAGEBA. D'ailleurs, Verberie a une particularité, c'est qu'il est dans 3 syndicats de rivière. Syndicat de la Basse-Automne, où il a quand même la plus grosse partie. Syndicat de Oise-Aronde, où il a une partie non négligeable. Et le syndicat de la Nonette, où il a une partie négligeable. Enfin, il n'a rien du tout. Presque rien. Mais on était dans ces trois-là. Donc ce qui va se passer aujourd'hui, et ce qui était décidé là pour le coup en délibération, c'est que de toute façon, l'agglomération reprend la compétence GEMAPI. Elle n'a pas le choix. C'est la loi. Mais pour la partie GEMA, donc gestion des eaux et des milieux aquatiques, elle l'a tout de suite, au 1er janvier 2018, transféré au bassin, au syndicat de rivière concerné. Donc il y a effectivement les trois que j'ai cités, et puis il y a un truc sur l'Oise moyenne, mais c'est très faible en fait. En fait, les trois bassins auxquels on appartient, ce sont ceux qui couvrent l'agglomération de la région de Compiègne. Donc ça, c'est redistribué vers eux. Pour la compétence prévention des inondations, aujourd'hui, l'agglomération n'a pas décidé de ce qu'elle allait faire, si elle la garde pour elle-même ou si elle la transfère à d'autres. Sachant que dedans, il y a des coûts, hein, parce qu'il faut entretenir les digues, il faut faire des choses.
L'entente Oisenne va le porter pour un certain nombre déjà aussi.
Ben, c'est un choix. L'agglomération de la région de Compiègne réfléchit à savoir si elle, notamment si elle intègre ou pas l'entente Oisenne. Qui a travaillé sur Verberie notamment. Les digues de protection, c'est elle. Tout l'espace d'écrêtement des crues, c'est elle. Et aujourd'hui, il y a une réflexion. Voilà. Là-dessus. Mais là, on est sorti un peu des statuts. Je vous propose de passer au vote sur les statuts, à moins qu'il y ait une autre question. Non ? Statut donc de l'agglomération de la région de Compiègne de la Basse-Automne. Vous aviez le projet de délibération qui vous était donné, hein, qui vous a été transmis, pardon. Décide, alors je vous relis, il y a tout un tas de considérants que, etc. décide d'approuver la version des statuts de l'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Autonne telle que proposée par le Conseil communautaire par la délibération susvisée, de demander au préfet de l'Oise de bien vouloir arrêter cette rédaction des statuts avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2018, d'autoriser le maire à prendre toute mesure nécessaire en vue de l'exécution de la présente délibération. Voilà, copie de cette délibération, il sera transmise, etc. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approuvé à l'unanimité. Point suivant, c'est le numéro 7. Modification du tableau des effectifs. Alors, le tableau des propositions d'avancement de grade de l'année 2017 a reçu un avis favorable de la commission administrative paritaire le 6 octobre 2017. Il propose donc à l'Assemblée une modification du tableau des effectifs à partir du 1er décembre 2017 afin de permettre l'avancement l'avancement de grade d'un agent travaillant à l'école maternelle qui se traduira par la création d'un poste d'adjoint technique principal deuxième classe 35 heures sur 35 et la suppression d'un poste d'adjoint technique 35 heures sur 35. On en crée un, on supprime l'autre. Voilà. Voilà, je rappelle que la commune va devenir propriétaire de l'espace d'Agobert au 1er janvier 2018. Il est donc nécessaire de prévoir un emploi permanent d'adjoint technique à temps complet pour l'entretien et l'utilisation de cet espace. Je propose donc à l'Assemblée une modification du tableau des effectifs à compter du 1er décembre 2017 pour la création d'un poste d'adjoint technique principal deuxième classe 35 heures sur 35 service école maternelle et la suppression d'un poste d'adjoint technique 35 heures sur 35. Et à compter du 1er janvier 2018, pour la création d'un poste d'adjoint technique 35 heures sur 35 à l'espace d'Agobert. Je rappelle que pour l'espace d'Agobert, la communauté de communes de la Basse-Autonne avait un poste à temps complet qui était en place. Donc on ne fait que recréer ce poste au sein de la commune parce qu'il faut entretenir le bâtiment. Et que normalement, je dis normalement parce que ça n'a pas encore été voté, le coût du poste sera évidemment intégré dans les compensations qui seront votées par la commission ad hoc. D'accord ? Donc pour nous, c'est quelque part, au moins à l'instant T, une opération transparente. À l'instant T. T plus 1, T plus 2, c'est plus tout à fait transparent, puisque je rappelle que les compensations sont votées une fois pour toutes et qu'elles n'évoluent pas. Voilà. Donc, questions, commentaires. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Ensuite, le point, disons, numéro 8. Alors, un avis sur le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Va-de-l'Aumont. Alors, la commune de... On a reçu effectivement de l'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Autonne pour avis le projet de délibération du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Va-de-l'Aumont arrêté par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2016. Je vous propose d'émettre un avis favorable sur le projet de PLU arrêté par la commune de Saint-Va-de-l'Aumont, sans remarque particulière. Il y a ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait deux petites zones AU qui ont été ajoutées, AUA et AUB, qui ne sont pas du tout jointives de la commune, qui ne touchent pas la commune. C'est sur, voilà, c'est sur Saint-Va même, ce n'est pas limitrophe avec la commune. Voilà ce que je vous propose. Sachant que le document est de toute façon était et disponible en mairie. Hein. Bon, c'est un CD-ROM, hein. C'est difficile d'envoyer ça par mail. Hein. Tu veux dire un mot, René ?
Non,
René Brouillard l'a étudié, l'a lu complètement en tant qu'adjoint à l'urbanisme.
Qu'est-ce qui fait qu'on voit sur...
On est obligé.
Pourquoi?
Parce qu'on fait partie des partenaires associés. Comme quand nous, on fera... Enfin, nous, on ne fera pas, puisque ça va être fait au niveau de l'agglomération. Il y a un nombre de partenaires associés qui ne votent pas, qui émettent un avis.
Ça veut dire que quand tu dis nous, on le fera au nom de l'agglomération, eux, il me semblait l'avoir vu, se sont différenciés. Et au niveau de l'urbanisation, ils ont un choix différent ou ils sont dans les mêmes...
Ah non, leur plan local va être repris dans le PLUIH.
Les compétences obligatoires.
Le plan local d'urbanisme intercommunal. Les 22 communes sont reprises dedans. Et encore une fois, on vote, oui, mais on ne vote pas une décision, là. On vote un avis.
C'est un avis.
Question sur ce plan local d'urbanisme? Bon, je vous propose de passer au vote, alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Différentes informations maintenant, avant de passer au... on va le faire dans l'ordre, on va faire les questions diverses d'abord, ça me semble normal. Bon, Madame Grosbon m'a posé une question, elle n'est pas là, mais elle m'a posé une question... sur le fait que le président de la République a missionné M. Stéphane Bern, bénévole, pour recenser l'état du patrimoine français, public et privé, peut-être serait-il judicieux de saisir cette opportunité pour déposer un dossier relatif à l'église, bâtiment et orgue, et Notre-Dame des Monts, afin d'attirer l'attention sur le mauvais état de ces bâtiments. Il me semble que cela vaut la peine d'essayer. Bon. Oui, pourquoi pas. Ceci dit, j'avoue que là, je ne connais pas à regarder. Je ne connais pas bien quelle est la procédure qui va être mise en place. J'imagine qu'il y en a une. Tout le monde ne va pas s'adresser comme ça à M. Stéphane Bern. Et que tout ça, de toute façon, va passer un moment ou un autre par les DRAC, qui sont quand même les établissements qui sont censés s'occuper du patrimoine. J'imagine. Mais là, je ne la connais pas bien, la procédure. Bon, il a été nommé il n'y a pas très longtemps. Hein. Il y a un mois. Un mois.
Bon. Là, je crois qu'il s'occupe du musée automobile du château de Compiègne.
C'est possible.
Donc, concernant Notre-Dame des Monts, c'est un espace privé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on ne peut pas déclarer.
Bon, alors, l'église, c'est public. OK, donc là, on est propriétaire de l'église. Donc là, oui. Notre-Dame des Monts, c'est quand même un endroit privé, donc c'est quand même, à mon avis, pas tout à fait la même chose, bien que j'ai pas vu les limitations de la mission de M. Stéphane Bern. Est-ce qu'il s'intéresse également au patrimoine privé ou pas? Je ne le sais pas.
Je crois qu'il fait les deux.
Ça me semblerait pas illogique, hein, puisqu'il y a un tas de châteaux qui sont possédés par des gens qui font partie du patrimoine français, hein, qui essaient d'entretenir tout ça.
Ah oui, mais c'est gros morceau, la chapelle.
Oui, mais il n'y a que la chapelle, le répertorié. La maison à côté ne l'est pas.
Ah oui. Enfin, la chapelle, elle est en...
Très bien, elle est en ruine.
Elle ne peut pas tomber, hein. Ça, c'est un bon hiver.
Ah ben, elle est en ruine, maintenant.
Ah ouais, elle est en ruine. Hein.
C'est dommage.
Oui, c'est vrai. Bah, oui, mais c'est un espace privé.
On est d'accord. Voilà. Et on n'est pas resté sur ce sujet-là. Pour information, on n'est pas resté sans rien faire. D'ailleurs, il y a un avis de péril qui est toujours dessus. Il y a eu également des interventions de l'agent. On est intervenu auprès des propriétaires. Il y a eu des interventions de la gendarmerie. Il y a eu d'autres interventions qui ont été faites. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a des interventions auprès du propriétaire. Mais voilà. On aimerait bien qu'il agisse, mais...
Mais normalement, quand on fait un décret mis en péril, tu as la possibilité d'entamer les travaux et d'y appeler le propriétaire.
Compliqué, hein?
Non, non, mais c'est...
Compliqué. Tu peux toujours entamer les travaux payés et après tu essaieras de te faire rembourser.
Oui, mais bon. C'est vrai que...
C'est pas trop s'entendre.
Hein. Voilà, on n'est pas les seuls à avoir ce genre de problème. Hein.
Il n'y a pas un droit de préemption, justement, quand c'est, menace.
Parce que c'est 500 000 euros pour faire les travaux.
Non, mais même. Oui.
Alors,
si on exerce un droit de préemption, il faut pouvoir avoir le moyen de les mettre en état.
Sur ce sujet-là, effectivement, de toute façon, là, aujourd'hui, on a demandé pour Notre-Dame-des-Monts une évaluation par France Domaine. Ça ne coûte rien, savoir, parce que le propriétaire nous raconte que c'est Versailles. Je l'ai fait, c'est caricatural. Hein. Donc on a demandé une évaluation à France Domaine pour lui montrer que voilà, ce qu'il dit de la valeur de son bien n'est pas tout à fait représentatif.
Ce qu'il faudrait, c'est qu'il remette déjà tout en place ce qu'il a pris.
Bah là, Francis, c'est un vœu pieux.
C'est toujours pieux aux États-Unis.
Je suis
c'est un vœu pieux. Donc aujourd'hui, on est sur une démarche avec France Domaine, effectivement, pour évaluer les biens. Mais il y a des gens qui s'intéressent à de tels patrimoines pour y conduire des projets. Il y a un monsieur qui, dans la région, un architecte qui s'intéresse à ça, qui en a déjà conduit. À Crépy-en-Valois, il est en train d'en conduire à Auroui, mais il ne pouvait pas en conduire des dizaines. Et puis surtout, le prix qui lui était proposé pour Notre-Dame-des-Monts était totalement inconciliable avec un tel projet. Donc c'est pour vous dire qu'on s'intéresse à l'affaire, qu'on est en lien, on continue là-dessus. Maintenant, derrière ça, si jamais nous on le rachetait, ça veut dire qu'il faut un projet derrière. Ça veut dire que est-ce qu'on a l'argent pour faire ça? Bon, on est d'accord.
Comme disait Lisette Robon, elle a pensé qu'en contactant Stéphane Bern, ça risque peut-être par les médias de mettre M. Stény, Mme Stény, en mauvaise posture vis-à-vis de la publicité, de la presse. Que de savoir qu'un grand antiquaire dans Paris a un monument en ruine à Verberie, ça fait peut-être mauvais effet.
Alors, la solution de la presse, c'est, voilà, c'est la solution ultime derrière ça. Maintenant, oui.
Peut-être qu'il faudrait jouer sur ce tableau-là.
Oui. Ceci dit, c'est toujours pareil. C'est un fusil à un coup, donc il faut le jouer au bon moment. Parce qu'une fois qu'il est joué, c'est terminé.
Là, c'est pareil pour l'orgue de Verberie. Qu'est-ce qu'on peut en faire de l'orgue?
Avant de pouvoir entamer les réparations de l'orgue, il faut déjà déplacer le système de chauffage. Mmh. C'est le système de chauffage tel qu'il est réalisé, parce que les bouches qui soufflent dans l'église passent sous l'orgue. Et c'est ça qui, en chauffant, a complètement abîmé et détérioré l'orgue. Donc tant que le système de chauffage n'est pas déplacé et remplacé par un autre, ça ne sert à rien de toucher à l'orgue.
Il y a tout un système pour l'orgue en état. Et ça serait dommage quand même de laisser l'orgue.
Non, il est cassé.
Ah mais...
Tous les gens
étaient
au mariage.
Voilà, donc. Bon, voilà ma réponse à la question de Madame Grobon. Hein, bon, aujourd'hui, je ne sais pas bien. Voilà, quelle est la mission de Stéphane Bern? Comment on l'approche, ce monsieur? Comment on... Bon, il s'intéresse peut-être qu'à des gros projets. Hein.
Dans les communes, il n'y a rien qui est arrivé, de toute façon.
Ah non, nous, on n'a rien reçu, hein, ce sujet-là.
On pose la question, comment faire pour le contacter, pour qu'il puisse venir à
Verberie. Mais les modalités concernant M. Berg, elles ne sont pas arrivées dans les mairies. Il permet de répertorier des choses qui n'étaient pas clairement identifiées. Et après, par contre, trouver les fonds, ce n'est pas lui qui va financer, il va nous dire où s'adresser. Donc...
Bon, on va regarder ce qu'on peut faire, au moins pour... qui tente rien n'a rien, comme j'ai entendu tout à l'heure. Deuxième question sur la taxe Gemapi. Après lecture dans différents quotidiens, voici une nouvelle taxe qui verra Voici qu'une nouvelle taxe verra le jour au 1er janvier 2018 afin de permettre aux communes, alors non, aux communautés de communes ou communautés d'agglomération, de financer les coûts relatifs au risque d'inondation. Alors non, pas tout à fait, c'est bien GEMAPI en complet, donc gestion des eaux et des milieux aquatiques et prévention des inondations. Il faut prendre en compte la totalité de la loi MAPTAM. Est-ce un nouvel impôt local suite à la suppression de la taxe d'habitation? Alors, c'est un nouvel impôt... disons que jusqu'à présent, je n'ai pas été vérifié dans ma feuille perso, mais la ligne GEMAPI était déjà marquée dedans, sauf qu'elle était à zéro. Voilà. Donc là, effectivement, par contre, elle ne sera plus à zéro. On peut dire création. Ça, je suis d'accord. Qui va payer? De toute façon, tu dis la communauté de communes, les communes ou bien les particuliers. Mais de toute façon, la réponse, elle est unique. Parce qu'au final, c'est toujours les particuliers et les entreprises qui paient, au final.
Soit en direct, hein, soit en indirect. Bon.
Mais ceci dit, là, pour répondre à ta question, parce que j'en saisis quand même le sens, c'est bien directement les particuliers. Et d'ailleurs, cette taxe, elle va être répartie. Alors, selon un algorithme qui, pour moi, est un peu mystérieux aujourd'hui, entre la taxe d'habitation, la taxe foncière bâtie, non bâtie, et la CF, cotisation foncière des entreprises. Elle va être répartie par les services fiscaux entre ces quatre fiscalités, enfin, ces quatre impôts. D'accord ? Ce qu'on demande aujourd'hui aux communautés de communes ou communautés d'agglomération, c'est combien avez-vous besoin? Voilà, vous voulez récupérer combien? Donc c'est... En fait, il y a deux questions. Est-ce que vous allez financer ce qui vous est demandé en tout ou en partie par la taxe GEMAPI ou par votre budget général? Mais comme il s'agit de nouvelles compétences, voilà... ou est-ce que vous allez faire appel à la taxe GEMAPI qui, elle, est limitée à 40 euros par habitant?
C'est pas par habitant?
Par habitant. C'est pas par foyer. 30 secondes. Attends, je te le dis.
Parce que un coup,
mais... Non, non, attends.
C'est 40 euros par habitant.
Non, 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 attends. Tu me laisses aller au bout. Bon, je vous lis ce qui était marqué, ce sera plus simple. La taxe se répartit sur les quatre taxes prévues au profit des collectivités territoriales, proportionnellement aux recettes que chacune procure aux communes et aux EPCI. Voilà, EPCI, communauté de communes ou communauté d'agglomération. Cette taxe est facultative et plafonnée à 40 euros par habitant et par an. Plafonnée. En population, DGF, bon, peu importe ça. Elle ne peut être perçue... Donc c'est bien 40 euros par habitant le plafonnement.
Hein?
Elle ne peut être perçue que par les communautés d'agglomération et les communes, mais pas par les syndicats. Le produit est affecté par un budget annexe spécial, GEMAPI, et il ne peut y avoir de reversement au budget général. C'est-à-dire, c'est complètement fléché. Ceci dit, l'eau paie l'eau, donc c'était le même principe, sauf qu'aujourd'hui, l'État vient se servir dans les caisses des agences de l'eau. Mais ça, c'était une parenthèse. Si l'ARC décide de l'instaurer, elle devra, et elle a décidé de l'instaurer, elle devra indiquer aux services fiscaux le montant qu'elle souhaitera percevoir. Ensuite, ce sont les services fiscaux qui ventileront ce montant sur les contributions fiscalisées. Donc après, c'est une moulinette qui correspond à ce qui a été dit tout à l'heure, proportionnellement aux recettes que chacune procure aux communes et EPCI.
Excusez-moi, ça ne veut pas dire que systématiquement on paiera 40 euros. Donc.
Ah non, non, on va arriver, on va y arriver.
C'est le plafond.
On va y arriver.
Mais aujourd'hui, on a X syndicats. Donc là, sur notre périmètre, vous avez dit qu'on était sur 3.
Ouais.
Alors aujourd'hui, pour mémoire, le SMOA, il doit être autour de... on a 1,46 je crois.
Ouais.
1,46 parce qu'ils sont uniquement pour l'instant sur les frais de structure, sachant qu'ils n'ont pas encore développé leur projet derrière. Ouais. Ça, je la donne net, ils sont, je crois, à quelque chose comme 8, 10 dans ces eaux-là.
Le sage de la net, c'est vraiment pas grave. Que ce soit l'aglo ou nous, on y est vraiment pour. Enfin voilà, on n'y est pour rien, quoi. C'est une fine partie.
Mais c'est simplement aussi pourquoi je dis ça, parce que le SMOA, aujourd'hui, encore une fois, ils n'ont pas développé le projet. Donc,
la nonnette.
Pourquoi et pour, non, la nonnette, eux, ils ont déjà répertorié un certain nombre de projets, ouais. Ils sont déjà prêts à s'engager, d'où le montant déjà plus élevé. Ce qui veut dire qu'à terme, de toute façon, ça va monter. Quoi. Le SMOA, de toute façon, va monter en puissance sur, ouais. Sur sa compétence. Enfin voilà, chaque syndicat montera en puissance, c'est clair.
Enfin, les syndicats.
Peut-être pas à 40, mais on montre.
Les syndicats, c'est là où il faut quand même remettre les choses en place. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se pose beaucoup de questions, parce que. À force de faire des syndicats, c'est pas le cas des syndicats de rivière, mais des syndicats très puissants dans lesquels il y a je ne sais combien de communes, on ne sait plus qui décide quoi dans ces affaires-là. Donc là, sur ce que prennent les syndicats, c'est quand même des élus qui sont au conseil, qui votent le budget. Hein. Bon, donc voilà. Et bon, après, là, c'est aussi des fois un peu, alors j'allais dire malhonnête, ne le prenez pas, mettez-le entre guillemets malhonnête, hein. Mais l'État vous impose des choses, de toute façon, il faut bien financer. Après, vous n'avez pas le choix, c'est la loi, vous devez le faire, okay, il faut payer. Personne ne travaille pour rien.
Non, mais ce qui veut dire qu'on va nous supprimer une taxe d'un côté, et puis on va nous en mettre une autre. Enfin,
alors, pour remettre les choses dans l'ordre.
C'est pour partir.
Alors, pour remettre les choses dans l'ordre, cette affaire-là a été largement, complètement votée avant les élections présidentielles. D'accord ? Donc il n'y a pas de lien entre les deux. Mais je suis d'accord dans ce que tu dis, quoique je rappelle que la taxe d'habitation ne sera a priori pas supprimée pour tout le monde. Bon. Voilà, oui, c'est une... Enfin voilà, c'est une taxe. Aujourd'hui, l'État a décidé de... suite à un certain nombre d'affaires... dont l'affaire qu'il y a eu en Vendée, on s'est rendu compte que les digues étaient pas ou mal entretenues. C'était à la charge, si je me souviens bien, c'était quand même l'État qui était responsable de ces affaires-là. Donc l'État dit, bah, maintenant, c'est plus moi, et vous vous en occupez. Et c'est un peu simpliste, hein, ce que je dis, mais quand même, quelque part, c'est ça. Et donc maintenant, bah, il faut trouver l'argent pour le faire, parce qu'effectivement, les collectivités, elles vont être juridiquement responsables.
Oui, parce que l'État a annoncé qu'il en avait marre de dépenser 870 millions pour les cas d'inondation et des choses comme ça. Et bon, en sachant qu'il s'est répercuté sur les assurances maison, et puis que c'est particulier, il n'est pas ici.
Oui, enfin, propose d'en rester, de rester assez factuel, parce qu'après on peut débattre très longuement sur la philosophie. Bon, c'est pas forcément faux ce que tu dis, mais c'est aussi, ça demande... Peut-être que c'est la bonne technique, parce qu'il vaut peut-être mieux que ce soit les communes qui dépensent ces 800, je ne sais pas combien de millions d'euros, peut-être qu'ils seront mieux dépensés que depuis Paris. Enfin, il faut aussi... Après, non plus, ce qu'il faudrait voir, c'est que le budget de l'État diminue de 870 millions d'euros. Parce que... Et là, ce serait bien. Mais voilà, bon, on continue. Toujours est-il que je reviens, par contre, sur la taxe. Donc, aujourd'hui, ce qui a été voté par l'agglomération, c'est effectivement de créer une taxe GEMAPI, et de financer la compétence GEMAPI par cette taxe, qui est fléchée, comme on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, l'agglomération a fait ses calculs, et elle dit, pour la cotisation GEMA, il me faut 127 000... bon, je vous passe les quelques euros. Il me faut 127 000 euros, d'accord ? Et pour la compétence prévention des inondations... Ils font leur calcul, il me faut 337 120 euros. Voilà. Sachant qu'ils ont lissé un certain nombre de travaux sur 15 ans. Bah ouais, ça coûte, tout ça, ça coûte de l'argent. Hein. Le besoin total est donc de 464 202 euros par an. L'ARC souhaite reporter la totalité de ce besoin sur la taxe GEMAPI, c'est ce que je viens de vous dire. Alors 460 202 euros par an. Pour 80 000 habitants, ça fait entre 5 et 6 euros par habitant. Aujourd'hui. Donc je fais référence à ce que vient de dire M. Lamy. Aujourd'hui, ça fait ça. Maintenant, là où il ne faut pas se tromper, par contre je te vois noter des choses, mais là où il ne faut pas se tromper, Michel, c'est que ce n'est pas 4 ou 5 euros en plus sur ta feuille d'impôt. Ça, c'est la moyenne. Autrement dit, il y a des gens qui vont payer 30 euros et des gens qui vont payer 50 centimes.
Ah, 5 euros pour rata de...
Bah, évidemment.
Comme tous les impôts.
Et les entreprises, bon, voilà, c'est pas... Non, elles ne sont pas, pas plus que les autres, mais ça ne représente pas 4 euros par entreprise, ça, je peux te le dire.
Voilà. Et ça, c'est pas une taxe provisoire, c'est une taxe...
Je ne vois pas un gouvernement retirer cette compétence GEMAPI maintenant qu'elle est mise en place. J'ai rarement vu d'ailleurs. Enfin, je ne suis pas non plus, je suis pas très vieux, mais. Bon. Est-ce que ça répond à ta question ?
Bah un peu, parce que c'est vrai que c'était. On voit ça dans les quotidiens, on n'a pas d'explication bien précise. En fin de compte, on s'aperçoit que l'arme part et c'est une occasion de soulever le problème. Ouais. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'on va avoir ça en mois de janvier. Ouais.
Voilà, j'ai répondu aux deux questions. Enfin, je pense avoir quand même apporté une réponse. La question qui reste après, c'est la répartition entre les différentes taxes. Honnêtement, c'est ça va être une moulinette de la DGFiP qui va être très complexe. Hein. Donc, voilà. Bien. Attendez, j'ai un certain nombre d'infos à donner quand même. Dès que j'aurai retrouvé mon papier.
Quand tu as des grandes inondations, quand tu as des dégâts, tu retrouves ça sur tes assurances parce que tu participes d'une manière ou d'une autre. Quand tu as des dégâts,
je téléphone. J'ai mis mon truc. Alors, dans le l'idée de tout ça, monsieur Lamy, enfin voilà, il y a aussi le fait que quand il y a une inondation, il y en a pour 200 millions d'euros de dégâts. Hein. Donc derrière, c'est aussi. Voilà,
le principe de tout ça, c'est de mettre l'argent en amont de ces grands problèmes, pour éviter qu'ils n'arrivent, ou en tout cas pour réduire les dégâts, et notamment en humain, quoi. Surtout humain d'ailleurs. Voilà, donc bon, c'est tout à fait honorable comme procédé. Maintenant, c'est vrai que c'est une façon plus. Mais de toute façon, quand ça arrive, on doit quand même payer. Et ça passe par les assurances. Donc, autant que ce soit anticipé de cette façon-là.
Donc, il y a un certain nombre d'outils. Alors, GEMAPI, ce n'est pas que les inondations, c'est aussi la qualité de l'eau. Oui. Puisque la partie GEMA, c'est la qualité de l'eau, mais c'est aussi quelque chose d'important. Aussi, aujourd'hui, notre eau. Voilà, on vient en arrière, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le zéro phyto, mais elle est pleine de nitrates, de machins, de trucs, sans parler des médicaments voilà, qu'on ne sait pas trop traiter. Enfin, oui, on a besoin de faire des efforts dans ce domaine-là. Ouais. Donc c'est les deux, mais comme vous l'avez vu, hein, la prévention des inondations, c'est quand même 127 000 euros, c'est GEMA, 300, je ne sais plus combien, c'est la partie prévention des inondations, parce que ça va vite, hein, les inondations. Mais les dégâts, ça va vite aussi, donc ça c'est un outil, comme il a été mentionné. L'autre outil, c'est le PPRI, c'est un autre outil, voilà, pour éviter qu'il y ait trop de dégâts, etc. C'est une somme d'outils, en fait, hein. Voilà, les PRI sur lesquels on n'est pas forcément d'accord. Mais bon. Autre chose, donc, qui n'a. Ramassage des encombrants. Donc, l'agglomération. Nous, on a un gros problème d'encombrants, de ramassage des encombrants au niveau de nos collectifs, ou du moins, on avait. Pour améliorer la situation, l'agglomération de la région de Compiègne a décidé, sur Verberie, et rien que sur Verberie aujourd'hui, pour la basse automne, parce que pour le reste, je pense qu'ils étaient déjà à ce niveau-là, de faire un ramassage hebdomadaire des encombrants au niveau des collectifs. Et rien qu'au niveau des collectifs. D'accord. Bon, je passe maintenant régulièrement. C'est vrai que je vois que ça améliore clairement la situation. Même s'il reste des problèmes. Ça vient de se mettre en place, hein, ça a démarré il y a 2 ou 3 semaines. Hein. Donc ça améliore la situation. Bon. Je ne dis pas que ça résout tous les problèmes. Ça améliore la situation. Information, on a...
Pouvez-vous dire ça, s'il vous plaît?
Les encombrants, oui. Il y a un ramassage hebdomadaire qui est fait au niveau des collectifs. Depuis 3 semaines. Comment ?
Depuis le 28.
Depuis le 28. Ben, merci. Merci, Marie-France. Depuis le 28. Je pense que ça améliore la situation.
Nous, on s'en fiche maintenant, on en a un qui nous ramasse tout.
Ouais, ça, c'est autre chose.
D'accord. Ah, ben non, c'est pas bien. Parce que nous, ils bloquent tous nos molocs et nous, on n'a plus de place pour mettre nos ordures.
Voilà, bonjour. Ça, c'est un autre temps. On va pas en parler dans une autre enceinte, mais bon. Donc, il y a ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Ouais, moi, je ne pense pas que ce soit si bien que ça, moi, personnellement. Parce que ça veut dire qu'en fait, on a deux types de personnes dans notre société. Donc, ceux qui respectent et qui emmènent leurs encombrants, et puis les autres. Et ceux-là, on s'occupe de tout et finalement, tout le monde paye.
Oui, oui et non. Bon, d'abord, c'était une décision, effectivement, de l'agglomération parce que. Je crois que c'est la politique qu'elle applique sur le reste de l'agglomération. Donc, comme c'est celle qu'ils appliquaient sur le reste de l'agglomération, il n'y a pas de raison qu'on ne bénéficie pas de la même politique. Ça, c'est le premier point. Certes, mais voilà. Le deuxième point, c'est quand même, là, c'est un bémol par rapport à ce que vous avez dit, c'est qu'en ce qui concerne les encombrants, quand on a une maison individuelle, on a quand même plus de place pour les stocker que quand on a un appartement.
Enfin, je vous rappelle quand même, si vous me permettez, que chacun paye pour les déchetteries. On a un réseau de déchetteries qui est étendu et il appartient à chacun quand même de gérer ses propres déchets. Et à un moment donné, moi, quand on commence à déposer un peu partout ou en pied d'immeuble sans se soucier en disant que ce sont les autres qui ramasseront, moi, ça s'appelle de l'incivilité, c'est tout à fait anormal. Et finalement, le fait que tout le monde paye et accepte ce genre de système, bah, c'est finalement du...
Alors, dans le domaine de l'incivilité, je pense que, et d'ailleurs on a fait des progrès importants dans ce domaine-là, et on n'accepte plus n'importe quoi, et on avance. Ceci dit, ce n'est pas toujours simple, il faut aussi penser aux personnes qui vivent là, qui vivent dans une situation qui est extrêmement dégradée, et qui, eux, sont des bons citoyens. Qui, eux, ont emporté leurs déchets à la déchetterie, ou s'arrangent pour les mettre tous les temps sur place. Oui. Moi, je regrette aussi, évidemment, qu'on ait des gens qui se comportent mal.
Parce qu'il y a eu un moment où on a critiqué que les gitans avaient fait un dépôt d'ordures auprès des hémologues, les derniers gitans qui étaient venus.
Les gens du voyage.
Ah, les gens du voyage, donc ils avaient fait un dépôt d'ordures dans des sacs plastiques noirs et ils avaient mis ça dedans. Tout à fait d'accord. Mais quand on reprend le journal Le Parisien quelque temps en arrière et qu'il y avait une photo d'hémologue du lotissement des HLM, on retrouve des lits d'enfants, des gazinières, des télévisions, et tout ça, des matelas. On se pose quand même la question, qui c'est qui est plus sale l'un que l'autre. Parce que ces gens-là qui
ont mis leur matelas... On va faire le. Bon. Non, il y a des gens qui se conduisent mal partout. Bon. Il y a des gens qui se conduisent mal partout. Oui, pardon.
Il faut les verbaliser dans ces cas-là.
Il faut tomber dessus, quoi. C'est comme ceux qui font.
Madame Coulet. Nous avons effectivement recruté un ASVP. Il est quotidiennement, et même plusieurs fois par jour, enfin, partout dans la ville. Partout. Et les choses ont bien avancé depuis que ce monsieur... Exactement. Maintenant, il ne peut pas être sans permanence. Et puis la nuit, à minuit, il ne peut pas non plus être...
Il faut faire comme le maire, je ne sais plus quelle commune, qui a fouillé la poubelle, qui a trouvé les noms, et puis qui a dévoilé les noms directement.
Non, c'est pas à Pont, c'est Alain. Oui. Alainville. C'est Monsieur Dietrich.
Oui, mais quand tu n'as pas toujours des indices dans les poubelles.
Ah, il faut avoir le courage d'aller mettre ses mains dans les poubelles.
Mais tu ne les trouves pas.
Oui, c'est ça.
Oui, mais il y a un coup.
Stop, Michel. Quand on trouve des poubelles, on va les chercher. Elles sont systématiquement fouillées, ouvertes et fouillées par les agents municipaux.
Je pense plus que...
Maintenant, pour... Je t'en prie.
C'est quoi la différence? C'est qu'il y en a certaines qui dans sont allorées d'un bois et l'autre qui
je
sont.
Je parle de celles dans la forêt qu'on.
Ah ouais, mais c'est sur le principe, c'est exactement la même chose. C'est des gens qui mettent leurs déchets sur la voie publique. Hein, ou sur des espaces privés, ça revient exactement au même.
Bon, à un moment donné
c'est
aussi.
Même si c'est pas bien.
Non mais.
Puis on n'est pas dans la cistana, je pense quand même qu'à Berlin.
C'est un délit de. C'est un délit de mettre comment
non,
ces déchets de cette façon-là, ou sur la voie publique ou sur les espaces privés. Et je ne crois pas que le code différencie la qualité du délit, s'il y a des petites fleurs à côté ou pas.
Ça reste la même chose.
Bon.
Pas les mêmes,
on ne va pas revenir après sur la redevance incitative, etc. Qui a ses effets pervers aussi, même si ça n'excuse pas l'incivilité, mais qui a aussi ses effets pervers.
Pas la redevance incitative qui a ses effets
pervers. Bah, si.
Non, c'est le comportement des gens.
Je disais à Francis, j'ai eu l'occasion d'aller au cimetière pour tailler une tombe. Je ne savais pas que les morts, le soir, ils se faisaient des moules frites.
Hein?
Donc, on a retrouvé les coquilles de
moules. Eh bien, dis donc, tu as appris quelque chose.
Ah, ben, voilà. Il faut aller au cimetière pour savoir ça. Donc, on a retrouvé les coquilles de moules, les pots de margarine, enfin tout.
C'était une tombe de
moules. Quand même.
Mais personne n'a dit que c'était bien. Hein.
Ah non, mais soirée moule frites.
Personne n'a dit que c'était bien, et si on prend le mec qui fait ça, ça va mal se passer pour lui, c'est clair.
Ah oui, mais c'est vrai, hein, qu'il y a un peu d'incivilité.
Et le problème, c'est que.
Et puis. Et puis, de temps en temps, il y a aussi de l'exemplarité à avoir dans nos comportements, parce qu'il y a des tas de gens qui critiquent, mais des fois, on voit aussi ceux qui critiquent qui ont des comportements qui ne sont peut-être pas aussi exemplaires qu'ils devraient être. Bon. Donc, voilà. Non, je n'en ai pas. Bon, je propose de passer à autre chose en termes d'infos. Donc, vous savez que les nouveaux compteurs des Enedis, maintenant ça s'appelle comme ça, bon, c'était ERDF, vont être installés sur la commune. C'est l'une des premières communes de l'Oise. C'est un tirage au sort, donc on a gagné à la tombola.
On a tombé à la tombola.
Donc Beauvais est aussi dans le coup, il y a nous, il y a un certain nombre de communes. Donc lundi, j'ai demandé, parce que ces compteurs posent un certain nombre de questions, visiblement il y a un certain nombre de choses à dire, il y a un certain nombre d'interrogations. Donc j'ai demandé effectivement aux personnes d'Enedis de venir et qui sont là lundi pour une réunion publique à la salle de la ferme, voilà, pour répondre à vos questions, aux questions de ceux qui veulent bien venir et leur poser des questions. Parce que il y a sans doute un certain nombre de problèmes. Quand vous mettez en place un nouveau système, de toute façon, ce serait bien... il y a toujours des problèmes quand vous mettez en place un nouveau système. Après, il y a aussi des rumeurs, des choses qui sont totalement infondées. Donc, venez et posez-leur les questions. Donc, le directeur régional sera présent. Il y aura un certain nombre de personnes avec lui. Je lui ai demandé, j'ai mis l'information sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai eu quelques remontées. Donc, je lui ai demandé de venir, de faire la réunion publique. Et très gentiment, il m'a dit oui, il n'y a aucun problème. Et il vient lundi, voilà. Quand même, sur les questions qui se posent, oui, c'est obligatoire. Et une commune ne peut pas prendre un arrêté qui interdise de poser les compteurs Linky. Il y a quelques communes qui l'ont fait. Le préfet a immédiatement annulé l'arrêté. D'ailleurs, c'est peut-être pas justifié. Enfin, il faut quand même savoir que sur le gaz, ils vont aller dans le même sens. Hein. Ils vont mettre maintenant, tout le monde se sert du fait qu'on peut faire des objets connectés. Hein.
Enfin, on en avait parlé en début de Banjac, c'était le gaz qui voulait installer des émetteurs sur les différents points de bergerie pour pouvoir relever les compteurs.
Oui, tout à fait. La réunion est à 19h30. Donc venez les écouter, ils répondront à vos questions. Ils ont des réponses à apporter. Il est évident qu'on reste, voilà, on reste courtois, etc. Enfin, je veux dire, enfin, ça va mieux, évidemment, mais voilà, ça vaut pour tout le monde. Ensuite, autre question. Parc naturel régional Ouest Pays de France. Donc, Michel nous a envoyé une information suite à un décret paru le 10 juillet. La dernière fois que j'étais intervenu sur ce sujet, c'était le 6 juillet, si je me souviens bien. C'était en juin. Non, ça devait être le 6 juillet. Au mois de juin ou 6 juillet, je ne sais plus. Donc, j'avais répondu en substance, oui, ça a été voté par l'agglomération. Et si la loi change, ben, elle changera et on fera ce que dit de faire la loi. Donc, effectivement, le 10 juillet, il y a eu un décret qui est passé qui change certaines dispositions du Code de l'environnement. Et donc, on passera, effectivement, le fait que l'on intègre ou pas le PNR en conseil municipal. C'est tout à fait normal, c'est la loi et on passera. Pas de problème.
Non, on votera bien le conseil municipal un jour, où on passe ou on ne passe pas.
C'est bien ce que je viens de dire.
Ah oui, mais est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir une personne du PNR pour qu'elle nous explique les avantages et les inconvénients, pour que tout le monde soit au courant
parce pour,
que...
l'instant, alors, pour l'instant, vous avez, il y a une enquête publique qui a été faite. Vous avez toute la doc de l'enquête publique.
Oui, mais rien n'empêche de...
Non, parce que la doc de l'enquête publique, c'est la réalité. C'est la réalité, mot pour mot, de ce à quoi on s'engage. Donc il faut effectivement lire la doc.
Ça veut dire qu'on n'aura jamais quelqu'un qui fera le
livre. Ah bah, pour l'instant, je ne suis pas à cette démarche-là. Maintenant, on verra ce qu'on fera.
Aux dernières nouvelles, on... Alors... offre une prime pour l'achat des vélos électriques. Après, ça va être supprimé au 1er janvier 2018, la prime à l'achat de vélo. Donc, il y a possibilité d'avoir une réduction sur le...
Bien. Oui. Donc, de toute façon, ça passera en conseil municipal. Ça fera l'objet donc d'un vote, d'une décision, donc d'un débat, puisque ça précédera évidemment le vote. Ça interviendra quand ? Ça interviendra quand la région des Hauts-de-France nous demandera de le faire. Voilà pour ça. Parce que c'est la région qui... C'est d'ailleurs la région qui a initié l'enquête publique. Hein.
C'est la région qui pilote.
C'est la région qui pilote. Pour information, on a donc eu en conseil d'agglomération le rapport d'activité 2016 du service public d'élimination des déchets pour la CCBA. Donc il n'y a rien de particulier à en dire. Il n'y a pas d'événement particulier. Ce qui est un, il est évidemment consultable. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que lors de cette séance, on a aussi voté les tarifs. Donc les tarifs restent au même niveau. Voilà. Il n'y a pas de changement de tarif pour les déchets ménagers.
Et j'ai vu que les déchets sont payés une fois par an.
Alors, effectivement, a été voté le fait que désormais... ce sera une facturation annuelle des déchets.
Mais quand on regarde, ça va tomber en fin d'année, ça veut dire que ça va tomber au moment où tout le monde va payer ses impôts.
Ta première facture, là, tu vas recevoir une facture courant fin janvier, début février, pour 2017.
Pour 2017.
Et après, la même chose pour 2018.
Donc on les aura tous les ans.
Voilà, à cette époque-là, janvier-février.
Mais là, on vient d'avancer.
Mais là, c'est reçu les 6 mois de 2016. Dernier semestre 2016.
Après, c'est à chaque personne de provisionner pour payer la facture globale annuelle.
Avant, tu les avais sur ta taxe d'habitation
ou
taxe
foncière. Tu fais toi-même
les mois. Taxe d'habitation.
Michel.
Michel, avant tu l'avais sur ta taxe d'habitation une fois par an, ou taxe foncière une fois par an. Tu l'as payé annuellement ?
Non,
parce que
les locataires, ils payent.
Ah bah oui.
Les gens le savent et provisionnent tous les mois pour payer la. Après, il y a toujours les aides qui sont possibles comme avant.
On peut demander un étalement, on peut demander des choses comme ça. La mensualisation, je vais me renseigner, mais je demande si elle n'est pas possible au niveau des services fiscaux. Mais ce serait au niveau des services fiscaux, en fait. Non, mais je parle de mensualisation pour ce. Oui, c'est la trésorerie. Hein. Bien. Dernier point, a été adopté lors du conseil d'agglomération la modification simplifiée numéro 2 du plan local d'urbanisme qui avait fait l'objet non pas d'une enquête mais d'une consultation publique. Voilà. Il y avait eu un certain nombre de remarques, 8 personnes avaient fait des remarques. Dans la délibération, il est évidemment répondu à chaque remarque. Qui a été faite et par rapport à la proposition initiale, en fait, il y a eu 2 corrections qui ont été apportées. Il y en avait une, il y avait une erreur matérielle, effectivement, qui était dedans et qui a été apportée. De mémoire, cette erreur matérielle, elle portait sur le coefficient de COS ou quelque chose comme ça, enfin, un coefficient. Et la deuxième, effectivement, c'est... il avait été supprimé l'exigence d'une superficie minimale d'espace vert par logement. Elle était dans la version, dans le document initial, elle était de 50 mètres carrés par logement. Dans le projet, ça avait été supprimé. Il y a eu une superficie minimale de 35 mètres carrés qui a été remise en place. Voilà. Pas sur tout le PLU, ça. Hein, ça porte que sur la zone AUH. C'est pour ça que ça pouvait faire l'objet d'une modification simplifiée. Parce que sinon, après, c'est tout un système d'enquête qui se met en place. Voilà ce qui, aujourd'hui, a été fait et voté. Voilà, je crois que c'était la dernière information. Je crois que j'en ai donné pas mal. On fera comme ça en conseil municipal, on fera systématiquement, justement, on repassera les points intéressants qui concernent directement Verberie. Je ne repasse pas tout, hein, parce qu'il y en a, conseil d'agglomération. Hein. Donc, il y a des choses qui nous regardent, qui nous concernent carrément pas, qui concernent d'autres villes. Puis il y a des choses qui sont, qui concernent l'agglo en général. On ne peut pas parler de tout. Enfin, déjà là, il est... 22h10, voilà. Donc, mais ceci dit, ces documents-là sont consultables sur Internet, hein, si vous voulez aller les voir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Comment ? Ah oui, donc a été quand même abordé, il y a eu un sujet notamment qui a été abordé, c'est une augmentation assez forte des subventions accordées par l'agglomération à la SPL, Société Publique Locale, c'est ça ? Oui. La SPL Le Tigre, qui organise des manifestations, comme chacun sait, à Marny, et une modification de la convention. Alors, au départ, en commission des finances, était prévu de passer de 50 000 euros à 200 000 euros pendant 3 ans. Bon. Patrick a vigoureusement réagi sur le sujet, parce que d'une part, on n'avait pas les comptes du SPL Le Tigre, apparemment. Bon. Voilà. Ensuite, en délibération, après la discussion qu'il y a eu en commission, nous est arrivée une proposition de 200 000, 150 000 et 100 000. Voilà, donc dégressifs, qui vont dans le sens de dire ben, cet endroit-là doit retrouver un équilibre financier correct. De nouveau, il y a eu discussion. Nous sommes intervenus, surtout Patrick est intervenu, très bien d'ailleurs. Et Philippe Marigny a donc demandé deux choses. Il a demandé qu'effectivement les comptes nous soient envoyés. Donc ils ont été envoyés, tu les as eus. Et ensuite, il a dit, ben, ok, Verberie, SPL Le Tigre, vous vous sentez concerné. Donc maintenant, voilà, un de vous deux vient au conseil d'administration. Je trouve que c'est assez classe, c'est bien. Donc c'est Patrick qui s'y colle. Il est maintenant au conseil d'administration de la SPL Le Tigre, parce que l'idée derrière, moi, le fond de ma pensée. Après, Patrick, je donne la parole où tu veux parler en premier.
Ben oui, en fait, je suis allé voir qui était dans cette SPL. Il y a eu une DSP au départ pour accéder à ça. Et en fait, je me suis aperçu que dans cette SPL, c'était 75% l'ARC et le restant, c'était Compiègne et Marny. Donc, la convention modifiait les comptes quand même très fortement, par quatre. Et j'ai demandé si les autres intervenants s'y mettaient la main à la poche. Parce que chaque actionnaire dans une société, lorsqu'il y a de l'argent à mettre, il en remet à hauteur de ses pourcentages, normalement. Or là, il n'y a que l'ARC qui remettait de l'argent dans l'affaire. Donc ça, c'est pas très logique, déjà, premièrement. Je me suis aperçu que les comptes étaient quand même déficitaires de plus de 100 000 euros tous les ans. Depuis sa création, au départ, c'était quand même 500 000 euros qui ont été mis dans cette affaire-là, et il en reste plus que 250 aujourd'hui. Donc, c'était non plus pas très très logique. Ça nous a été apporté en commission finance sans avoir un seul chiffre. Et ils trouvaient ça normal. Donc, moi, je ne trouvais pas ça normal du tout, j'ai eu les comptes. Donc, cette année, ils sont encore déficitaires d'à peu près 50 000 euros. Mais bon. Il faut équilibrer les comptes dans une affaire comme ça, c'est pas possible. Ou alors, il faut dire, ben voilà, c'est quelque chose qui rapporte de l'économie dans le secteur, qui a pour vocation à être déficitaire, mais qu'on le sache une bonne fois pour toutes. Mais il est quand même, certes, Compiègne et Marny, dans le pourcentage de ce qui rapporte à l'ARC, c'est quand même la majeure partie, hein, c'est 80-90% du budget, c'est évident. Mais... Si ça apporte quelque chose, mais il faut que les choses soient claires dès le départ. Quoi. On ne peut pas dire, chaque année, on va remettre de l'argent dans la terre. Ou alors, il faut expliquer pourquoi.
Bon, alors, on était évidemment en phase sur cette affaire-là. Moi, je disais, parce qu'ils font, ils font des propositions culturelles, etc., il y a un souci de permettre l'accès au plus grand nombre, on va dire. Hein, oui, pourquoi pas, on peut faire du déficit, c'est pas un problème si on veut financer des actions culturelles, mais encore faut-il le faire en connaissance de cause. On dit on lance tel truc, ça va faire tant de déficit, mais ok, on le fait, ça vaut tant. Là, on avait un peu l'impression que c'était on lance, puis on verra bien quoi. Et après, on décide de lancer une action, on décide de faire tant de déficit, il n'y a rien de scandaleux, dans la mesure où on décide que c'est une action culturelle et que politiquement, on décide d'investir tant d'argent dans une action donnée, ça peut être du culturel, ça peut être je sais pas quoi, moi, n'importe quoi, mais ça doit être une décision au départ. Bon, voilà. En tout cas, maintenant, donc, Patrick fait partie du conseil d'administration de... l'adjoint aux finances fait partie du conseil d'administration de la société publique locale Le Tigre. Voilà, bravo à lui. Il va passer quelques soirées supplémentaires en réunion. Oui. Quelques réunions surtout. Voilà. Allez, on clôt la réunion. Ok.